Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi.
La violence, elle n'est légitime que quand elle est en riposte et qu'elle est proportionnée à des agressions. Le problème de ces images-là, c'est qu'on voit effectivement un usage de la force, mais qu'on ne voit pas en face des gens qui étaient en situation eux-mêmes d'avoir usé de la force contre les policiers.
La police des polices est saisie après les violences de la place de la République hier soir, le démantèlement d'un campement de migrants à coups de gaz lacrymogène en plein centre de Paris. Notre enquête dans un instant. Emmanuel Macron attendu à 20h pour un allègement progressif des contraintes. Est-ce le bon moment? Quelle est la circulation réelle du virus? Nous verrons cela. En pleine crise sanitaire et économique, les Restos du Cœur lancent leur campagne d'hiver. Aux États-Unis, Donald Trump accepte enfin la transition, tandis que Joe Biden forme son équipe. Invité d'Europe Midi, Sylvain Tesson, l'écrivain rassemble un grand nombre de ses écrits dans un gros volume de la collection bouquins, L'énergie vagabonde, invitation permanente à prendre le large, à partager des envies de voyage et de découverte.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des exilés afghans qui posent leur tente en plein cœur de Paris, place de la République, délogés violemment une heure plus tard, à coups de gaz lacrymogène, sous les cris des militants associatifs qui avaient organisé ce campement. La brutalité des forces de l'ordre a choqué jusqu'au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui évoquait cette nuit des images choquantes et qui vient de saisir l'IGPN, la police des polices. Guillaume Bier, avec vous, le déroulé des faits. D'abord, qui sont les migrants de cette nuit et ceux qui les accompagnaient?
Alors, ces migrants viennent du campement de Saint-Denis, évacué mardi dernier à l'aube lors d'une opération de mise à l'abri, disent les autorités. 3000 personnes évacuées, sans compter ceux qui étaient déjà partis quelques heures auparavant. Mais ces migrants n'ont pas tous été relogés et depuis plusieurs jours, les policiers les chassent des endroits où ils se regroupent en banlieue parisienne. Hier soir, plusieurs associations ont voulu organiser une opération symbolique et médiatique pour rendre visibles ces migrants sans hébergement. C'est ce que confirme à Romano Kéril Teria de l'association Utopia 56.
On savait qu'il y avait ce risque qu'il y ait un démantèlement violent, mais que c'était un risque qui était nécessaire pour que les personnes puissent être hébergées parce que de toute façon, elles sont totalement invisibilisées dans le nord de Paris. C'est une idée fausse de dire qu'on instrumentalise la situation des gens, qu'on organise les opérations sans les concerter. Non, non, là, c'était bien les personnes exilées qui nous ont fait part de leur volonté de visibiliser leur situation. Et nous, on leur a dit qu'on était d'accord pour participer et pour organiser quelque chose.
Au moment où les tentes toutes neuves se dressaient place de la République, Anne Hidalgo annonce sur Twitter que la mairie de Paris propose deux lieux pour accueillir ces réfugiés, des dispositifs d'urgence qui, je cite, « ne peuvent remplacer durablement une prise en charge par l'État dont c'est la compétence », écrit Anne Hidalgo, qui alerte la préfecture de police depuis 5 jours. Résultat, 4 à 500 migrants, des élus, des avocats, des médias se retrouvent place de la République un peu avant 19h. Le préfet de police ordonne l'évacuation, non planifiée, avec les effectifs disponibles, un escadron de gendarmes mobile, la compagnie de sécurisation parisienne et surtout les 4 brigades anti-criminalité de nuit de Paris et de Petite Couronne, dont c'est pas vraiment la spécialité. Évacuation sans ménagement et sous tension, pression d'élus, de militants, bousculades sous les objectifs. Certains policiers ont perdu leur sang-froid, dénonce David Lebars, patron du principal syndicat de commissaires.
La violence, elle n'est légitime que quand elle est en riposte et qu'elle est proportionnée à des agressions. Le problème de ces images-là, c'est qu'on voit effectivement un usage de la force, mais qu'on ne voit pas en face des gens qui étaient en situation eux-mêmes d'avoir usé de la force contre les policiers.
Gérald Darmanin a demandé des comptes au préfet de police. C'est fait, le rapport est sur son bureau. L'IGPN est donc saisie. Elle a 48 heures pour rendre ses conclusions au ministre de l'Intérieur qui a promis, lui, de les rendre publiques.
Guillaume Bier, le chef du service police-justice d'Europe 1. Les forces de l'ordre mises en cause au moment où les députés doivent voter sur le texte sécurité globale. Cet après-midi, proposition de loi controversée, y compris dans une partie de la majorité. Jean-Luc Mélenchon, ce matin, demande la suspension du vote au vu de ce qui s'est passé hier soir à la République. On va y revenir à 13h avec Claudia Bertram. Le ministre des PME, Alain Griset, épinglé par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Information du journal Le Monde. La justice est saisie pour des faits susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance. La Haute Autorité reproche au ministre d'avoir omis de déclarer de l'argent placé sur un plan d'épargne. Argent qui venait de la Confédération de l'Artisanat et des Services, instance qu'il a présidée jusqu'à son entrée au gouvernement. Ce soir, 20h, Emmanuel Macron va alléger les restrictions imposées contre l'épidémie de Covid et annoncer ce qu'il sera possible ou pas pour les fêtes de Noël. Mais Victor Delande, sur le plan sanitaire, Est-ce le bon moment ?
Ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle dans les hôpitaux est toujours extrêmement tendue. Il y a encore 4500 patients atteints du Covid en réanimation. Mais pour le reste, tous les indicateurs de circulation du virus vont dans le bon sens. Le couvre-feu et le confinement ont marché. Le taux de positivité des tests diminue toutes les semaines, aux alentours de 14% en ce moment. On est actuellement entre 10 et 30 000 contaminations par jour. Et si on prolonge la courbe des cas, on peut voir à quel moment on pourrait atteindre les 5 000 contaminations quotidiennes, seuil fixé par Emmanuel Macron pour reprendre le contrôle sur l'épidémie. Jean-Stéphane Dersin est responsable au CNRS de la plateforme de modélisation ModCov19.
Si on continue la descente telle qu'on descend actuellement, au 1er décembre, on sera plutôt à un peu plus de 10 000 cas. Et donc, il faudra attendre une dizaine de jours, une quinzaine de jours supplémentaires pour atteindre les 5 000.
Mais attention, un nouveau relâchement, préviennent les épidémiologistes. L'objectif principal est de rester sous la barre de 1 pour le taux de reproduction. Actuellement, ce R effectif est de 0,65. Mais nos comportements et les mesures annoncées ce soir par le chef de l'État auront forcément une incidence sur l'épidémie. Les spécialistes plaident pour un allègement progressif. Ne surtout pas tout relâcher comme au printemps pour ne pas connaître une troisième vague et un troisième confinement.
Victor Dolande, merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
À suivre, le lancement de la campagne hivernale des Restos du Cœur et les visages de ceux qui vont bientôt gouverner l'Amérique.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Les associations d'aide alimentaire accompagnent d'ordinaire quelques 5 millions de personnes en France. Mais la crise sanitaire et économique a fait exploser les compteurs. Déjà plus de 20% de nouveaux bénéficiaires pour la Fédération des banques alimentaires et 10% d'inscrits en plus pour la campagne d'hiver des Restos du Cœur qui commence aujourd'hui. Reportage à Bruges dans la banlieue de Bordeaux. Stéphane Place.
Et puis de la purée.
Le gel hydroalcoolique à l'entrée, un café pour patienter dans la file d'attente à l'extérieur. Ici à Bruges, dans les locaux flambant neufs des Restos du Cœur, se présentent des mamans élevant seules leurs enfants, des personnes isolées, plus de 40% des demandes, mais aussi ces nouveaux bénéficiaires comme Eric, frappé par la crise actuelle et qui vient pour la première fois au Resto du Cœur.
Ça ne m'était pas arrivé, c'est une situation assez difficile à vivre. Moi je suis cuisinier dans la restauration, je suis au chômage total. On a une famille avec deux enfants, un reconfinement une deuxième fois. Là on attend une réponse pour la réouverture des restaurants. On attend avec impatience ce que va dire le président ce soir.
Déjà cet été, l'association a enregistré en Gironde une hausse des demandes de plus de 7%. Alors Muriel Kilikini, présidente des Restos du Cœur, redoute plus que jamais l'impact de la crise cet hiver.
On a pris un petit peu exemple sur ce qui s'était passé en 2008, où il y a eu une augmentation de plus de 20%. On se prépare peut-être à ce chiffre-là. Ce n'est pas ce qu'on espère, mais on peut craindre ça, oui. Mais on a eu aussi un afflux de candidatures spontanées de bénévoles qui sont venus renforcer nos rangs. C'est des élans du cœur. On se dit non, mais ce n'est pas possible ce qui se passe, il faut que j'aille aider.
En Gironde, ce sont 1500 bénévoles qui se relaient pour faire tourner les Restos du Cœur. Bruges, Stéphane Place, Europe 1.
Aux États-Unis, Trump lâche un début d'au revoir à reculons, même s'il promet de poursuivre un juste combat pour prouver sa victoire présidentielle. Il demande que l'agence chargée du transfert de pouvoir fasse ce qui est nécessaire dans l'intérêt supérieur du pays. La transition est donc en marche. Joe Biden prépare son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier avec pour diriger sa diplomatie Pauline Jacquot, une personnalité connue, chevronnée, Anthony Blinken.
Oui, c'est un fidèle depuis 20 ans. Il travaillait avec Joe Biden au Sénat. Il l'a suivi à la Maison-Blanche lorsqu'Obama était président. Spécialiste de politique étrangère, fervent partisan du multilatéralisme, il rassure les Européens. Il parle aussi très bien français. Lui qui a vécu plus de 10 ans à Paris, notre correspondante Sonia Dridi à Washington, l'a rencontré pendant la campagne présidentielle.
L'engagement américain, le leadership américain avec la diplomatie en premier, c'est quelque chose de fondamental. Si c'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre et probablement pas de façon qui va avancer nos intérêts et nos valeurs. Ou personne ne le fait. Là, ça crée un vide. Des problèmes se manifestent beaucoup plus rapidement que des solutions.
Et puis, vous n'avez certainement jamais entendu sa musique, mais Anthony Blinken est aussi chanteur. Il a sorti deux titres en 2018, dont celui-ci, Lip Service.
Blinken, chanteur et guitariste, on le voit avec sa guitare, il faut regarder ce titre, Lip Service, qu'on peut traduire en français par hypocrisie, c'est de l'argot, m'avez-vous dit Pauline. Une équipe qui devrait donner une grande place aux femmes et aux minorités.
Oui, c'est Alejandro Mayorkas qui pourrait devenir le premier hispanique à la tête de la sécurité intérieure du pays. Révolution également au Trésor, puisqu'une femme serait nommée, l'économiste Janet Yellen. Ce n'est jamais arrivé en 2 siècles d'existence. Linda Thomas Greenfield, afro-américaine, serait-elle ambassadrice à l'ONU. Et une femme aussi, pour la première fois, directrice du renseignement, Avril Haines, ancienne directrice adjointe de la CIA.
Merci Pauline Jacquot. Le temps, Anissa l'a dit, des grisailles persistent cet après-midi.
Oui, sur le Val-de-Saône, Patrick, sur les plaines d'Alsace, sur les Hauts-de-France, pas mal de brouillard, tenace aussi sur les Ardennes cet après-midi. Donc soyez prudents si vous devez sortir au bord de la Méditerranée. Les entrées maritimes gagnent cet après-midi du terrain. Elles arrivent jusque sur le Roussillon et le Languedoc, avec même quelques petites pluies à prévoir en fin de journée. Et puis en Bretagne, le ciel se couvre aussi sur le Finistère, nous aurons quelques petites gouttes aussi avant cette nuit. Le vent du sud souffle du côté des côtes bretonnes et puis partout ailleurs, le soleil se montre dans un ciel parfois voilé. Les températures, elles sont fraîches à l'est, hein. Seulement 4 degrés cet après-midi à Strasbourg, 6 à Nancy et Metz, 9 à Paris, 12 à La Rochelle, 16 à Marseille et la maximale est prévue pour Biarritz avec 18 degrés.
Merci à vous Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
On va prendre le large dans un instant avec Sylvain Tesson qui nous y invite à chacune des 1400 pages de ses récits publiés en recueil dans la collection bouquins. Sylvain Tesson, invité d'Europe Midi, à tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour.
Voici un copieux recueil de vos récits de ces 20 dernières années, plus de 1400 pages dans la collection bouquins chez Robert Laffont. On y retrouve votre magnifique petit traité sur l'immensité du monde, vos récits d'aventure, Bérésina, éloge de l'énergie vagabonde qui donne son titre au recueil, vos bloc-notes, vos aphorismes et aussi des pages de vos carnets de voyage avec des dessins et des aphorismes qui vous sont inspirés par l'endroit et le moment. Dimanche 15 mars 2009, vous êtes au Yémen. À chaque aube contemplée, je me dis que c'est un affront fait au soleil que de le laisser se lever seul. Les hommes font la cour du soleil. Vous n'êtes jamais rassasié de voyages et de découvertes ?
Jamais. J'ai gardé un bon appétit. J'ai toujours envie, chaque matin, de repartir. Et j'ai toujours envie, chaque soir, de raconter à mes carnets ce que j'ai vécu pendant la journée.
Vous avez fait le tour du monde à vélo, vous avez vécu 6 mois dans une cabane en Sibérie, parcouru 5000 km dans l'Himalaya, chevauché 3000 km à travers l'Asie centrale, refait en sidecar le chemin de la retraite de Russie, escaladé les flèches de Notre-Dame et assez récemment l'aiguille d'Étretat. J'en oublie évidemment beaucoup dans cette liste. Quel est le point commun de tous ces lieux et de tous ces défis, Sylvain Tesson ?
Il y en a un qui est peut-être de l'ordre de la pathologie. D'ailleurs, les psychiatres appellent cela la dromomanie, c'est-à-dire la maladie du mouvement. L'impossibilité quasi physique et psychologique et physiologique de rester en place. Et puis alors, l'autre point commun qui est peut-être plus positif, celui-là, en tout cas plus bénéfique, c'est que moi, je ne suis pas un artiste, je ne suis pas un auteur de l'imagination. Je ne suis pas un écrivain capable d'inventer des mondes en moi. Mais comme j'aime écrire, je suis obligé d'aller chercher mes sujets dans la succession des paysages et des situations que je rencontre. Et pour les rencontrer, il faut que je me mette en marche, il faut que je voyage.
Il y a les paysages qui vous inspirent tant, mais aussi les rencontres. Je parle à un homme que je ne connais pas et lui confie davantage de choses que s'il était mon frère parce que je suis sûr de ne pas le revoir. Écrivez-vous, toutes vos sympathies, tous vos partages sont éphémères. Il n'y a pas des hommes et des femmes que vous aimeriez retrouver ?
Moi, j'accorde un grand prix, moi, à l'éphémérité des choses. Je sais bien que ça peut paraître absurde et que ça peut paraître même contradictoire avec l'idée qu'on s'installe dans une véritable relation, dans une véritable
fidélité.
Oui, et puis dans une véritable profondeur et une véritable compréhension des choses à partir du moment où on les installe dans la durée. Mais moi, c'est le contraire. J'ai l'impression que la rapidité avec laquelle je rencontre des gens, je sais que la rencontre ne durera pas, le caractère éphémère des paysages que je contemple, des situations que je vis, eh bien ça confère à cette succession-là d'instants une obligation. en fait, de vivre très attentivement les choses. J'essaie d'être vraiment aux aguets parce que je sais que les situations sont fugaces, éphémères, fulgurantes, et qu'il me reste pas beaucoup de temps pour en tirer le suc. Mais je méprise pas du tout l'option contraire, c'est-à-dire je méprise pas du tout mes semblables qui, eux, ont besoin de s'installer dans une durée fluide, ouais, profonde et lente.
Ça veut dire que chaque départ est un adieu. Dans votre géographie de l'instant, vous écrivez « Je fais toujours très attention aux derniers mots de mes interlocuteurs quand ils me quittent. En cas de malheur, c'est l'ultime trace que je conserve de quelqu'un. » Voilà pourquoi il faut soigner ses sorties.
Oui, mais j'ai toujours l'impression, moi, que je ne sais pas pourquoi, que je vis dans une imminence d'effondrement. Vous voyez, par exemple, là, je suis content de vous rencontrer, parce que je ne suis pas sûr que ça sera possible une autre fois. Je ne sais pas pourquoi, c'est un sentiment de, non pas de panique, parce que ça ne me fait pas du tout paniquer, mais de sentiment de vivre toujours le crépuscule des choses. Alors, c'est à la fois, on pourrait penser que c'est morbide, mais au contraire, c'est extrêmement vitalisant parce que j'éprouve un goût profond pour tout ce que je vis parce que j'ai l'impression que c'est peut-être la dernière fois. C'est banal, hein, vous savez, c'est la vieille pensée stoïcienne qu'il faut vivre chaque matin, il faut vivre chaque journée comme si c'était la dernière.
Vous avez pourtant, Sylvain Tesson, des fidélités, des engagements. Vous venez de partager le combat des Arméniens. Vous étiez il y a peu dans le Haut-Karabakh, cette enclave arménienne dont l'Azerbaïdjan, appuyé par la Turquie, vient de reprendre le contrôle après une guerre de plusieurs semaines. Qu'est-ce qui se joue dans cette partie du Caucase ?
Il se joue d'abord un vieux fantasme d'ordre géopolitique et même géographique, qui est le fantasme turc, le fantasme d'Erdogan, de redessiner sa grande profondeur territoriale jusqu'aux confins de l'ancien empire turc, enfin turcique, c'est-à-dire de créer l'unité de tous les peuples turcophones et d'allonger l'influence et la polarisation turque jusqu'aux steppes quasiment de Mongolie, en englobant l'Asie centrale, les pays de la Caspienne, les pays du Caucase. Et il y a dans cette profondeur un hiatus, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un bouchon, il y a un problème, qui est l'Arménie pour lui, puisqu'elle l'empêche de faire la liaison entre l'Anatolie et la Caspienne. Alors ça, c'est le premier problème qui se joue. Le deuxième est beaucoup plus grave, c'est que ça n'est pas uniquement territorial, ni uniquement politique. Bien sûr qu'il y a certainement des raisons d'État, économiques, pétrolifères, tout ce qu'on veut, géostratégiques, mais il y a autre chose. Il y a une espèce de haine absolument irrationnelle concernant les Arméniens qui ont subi il y a 105 ans le premier génocide de l'histoire du XXe siècle, en 1915, déclenché par leurs voisins ottomans, et qui semble se rejouer là, car on entend des phrases qui attraient à l'extermination d'un peuple. Ce qui se joue, vous me posez la question, c'est évidemment la possession du territoire, mais c'est aussi la vie des Arméniens sur la terre. Et je trouve que nous serions bien inspirés, nous autres Européens, de nous en soucier davantage.
Votre reportage au Haut-Karabakh était à lire dans le Figaro magazine. Dans vos récits, Sylvain Tesson, il y a les deux mouvements, partir et revenir. Partir, c'est vivre. Écrivez-vous au tout début de ce recueil de bouquins, L'énergie vagabonde. Et aussi, je voyage pour revenir, parce que vous êtes viscéralement attaché à la France. Quand vous revenez, quel pays voyez-vous ?
D'abord, je vois mon pays et j'entends ma langue. Donc, je suis heureux, moi, de revenir. Parce que, encore une fois, mais vous l'avez précisé, l'énergie vagabonde, pour moi, c'est le ressort qui vous projette, qui vous fait partir vers l'horizon, qui vous fait penser que dès que vous vous mettrez en mouvement, alors tous les problèmes se termineront. Mais c'est aussi le retour. Pour moi, l'énergie vagabonde, c'est véritablement ce battement. Le pays que je vois quand je reviens, ça dépend, il y en a deux. Il y a le pays de mon cœur, le pays de mon âme, le pays de mes oreilles aussi, la langue que j'aime parler, le français, le pays de mes yeux, c'est-à-dire les ciels de l'Île-de-France, les granits des Alpes, le vieux paysage français, qui est le paysage de la profondeur historique, hein, qui est le moment où tout à coup l'histoire prend une forme. Ça s'appelle le paysage. Alors tout ça, je l'aime, je suis heureux d'y revenir. Puis après, il y a le pays tourmenté, le pays de la discorde, le pays de l'espèce de rivalité civile permanente, le pays qui est un pays qui s'émiette un peu, un pays en tout cas qui ne s'entend plus.
Ça s'aggrave ?
Je ne suis pas suffisamment profond philosophiquement ni érudit historiquement pour le savoir. Enfin, j'ai suffisamment quand même de capacité d'observation pour voir que ça ne va pas très bien. En tout cas, dans l'ordre de l'unité, qui a été tout de même la très vieille question française. Comment unir ce peuple incroyablement désuni ? Comment réussir à faire en sorte qu'un type qu'un berger de la Camargue, un fromager savoyard et un marin breton s'entendent ? Ça, c'était ça a été toujours le vieux moteur, la vieille obsession française, faire l'unité de ce pays effroyablement morcelé. Ça a parfois réussi. Il y a eu des essais impériaux, républicains, monarchiques, ça a parfois réussi. Et puis là, soudain, on a l'impression qu'on est revenu dans un temps de discorde profonde. Alors ça me fait de la peine, oui, bien sûr.
Et ça dépend de qui ? Ça dépend toujours d'un monarque, en l'occurrence là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui va prononcer des paroles qui sont très attendues ce soir, et qui vont déterminer aussi la physionomie des semaines à venir.
Ça, je pense que ça fait partie de nos défauts, de chercher le responsable et de chercher absolument le monarque en espérant que si on lui coupe la tête, tous les problèmes se régleront. C'est d'ailleurs là-dessus qu'est née notre République il y a plus de 200 ans. Non, je crois que malheureusement, c'est une profonde erreur d'avoir voulu réinstaller l'idée d'une monarchie, enfin celle-là est républicaine, pour espérer créer une sorte de bouc émissaire de celui qui est à la tête du pays, mais qui l'ont bien cherché d'ailleurs, les présidents de la Ve République l'ont bien cherché, puisqu'ils ont créé d'ailleurs un principe de conduite monarchique, donc après il ne faut pas qu'ils s'étonnent de devenir l'espèce de bouc émissaire qui recueille toutes les doléances d'une population déçue. Non, je ne sais pas qui est le responsable, j'en sais rien, probablement faut-il d'abord, avant tout, avant de commencer à monter sur la barricade pour insulter le présent et pour promettre l'avenir, il faut commencer par opérer sa propre réforme intérieure. Et peut-être les Français devraient-ils, avant d'exposer leur programme pour la France, trouver un programme pour eux-mêmes et pour le changement intérieur qui impliquerait qu'ils soient un peu moins individualistes.
Il y a dans votre recueil, Sylvain Tesson, des pages sur Notre-Dame après l'incendie, et voici l'océan de notre immense peine. La cathédrale sera reconduite à l'identique, sera reconstruite à l'identique, mais l'archevêque de Paris, Monseigneur Petit, voudrait remplacer les vitraux détruits par des œuvres contemporaines, installées à la place des chaises, des bancs conçus par des designers. Est-ce que vous partagez l'effarement de Jean-Marie Rouard, l'écrivain académicien qui a lancé hier un pitié pour Notre-Dame à propos de ses projets ?
Oui, j'ai lu son appel, j'ai lu sa supplique, je partage à 100% la consternation de Jean-Marie Rouard. Des bancs conçus par des designers dans Notre-Dame. Vous voyez un peu l'espèce de disproportion absolue entre ce monument qui a symbolisé justement l'un des enracinements absolument immémorial de la France, et puis là, des espèces de battleurs d'estrade qui veulent faire leur geste contemporain. Mais le geste contemporain, Jean-Marie Rouard le rappelait d'ailleurs, le geste contemporain, il a déjà eu lieu à Notre-Dame. Il a déjà été exprimé. C'est l'incendie. Ça, c'était un geste contemporain. Puisque notre modernité, qui se contente de très peu et qui appelle à tout prix l'avenir, et qui appelle souvent la table rase du passé, eh bien l'incendie était le geste contemporain. La flèche a été brûlée, la charpente du XIIIe siècle s'est effondrée. Qu'est-ce que les modernes veulent de plus ? Alors, nous permettons, nous qui ne sommes pas des apôtres de la nouveauté, de l'innovation, du changement à tout prix, et qui ne font pas un dogme de l'avenir, nous demandons simplement qu'on restitue Notre-Dame dans les formes qu'elle avait avant de subir l'incendie.
Merci Sylvain Tesson. Quel sera votre prochain vagabondage, vous le savez ?
Écoutez, là, moi, je suis en train de me lancer dans un long projet d'écriture, mais qui concerne la poésie, le voyage et un peu Rimbaud.
Ah, très bien. Merci beaucoup Sylvain Tesson. L'énergie vagabonde dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Je fais attention à ces derniers mots, mais j'espère vivement que nous nous retrouverons.
Moi aussi, merci.
Merci à vous Sylvain Tesson.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci, dans un instant le 13h, Christophe Lamarre, puis la France bouge. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.